Merci Seigneur, bonsoir à tous. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la Bible, vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. On peut commencer au verset 1er. Matthieu, chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Amen. Alors que je réfléchissais un peu par rapport à ce soir, à ce partage, tout cela, j'étais parti sur ce texte. On avait décidé de partir sur ce texte et puis vraiment d'une manière spontanée, le Seigneur m'a conduit à réfléchir sur quelque chose, déjà pour moi-même mais pour chacun d'entre nous, quelque chose de très très important. On voit dans cette affaire, qui connaissait cette affaire, qui connaît cette histoire, qui avait déjà lu, hein? On appelle ça l'histoire du centenier et on dit souvent la foi du centenier. Et on voit un centenier dont Jésus va dire qu'il a une très grande foi. Il a une grande foi. Jésus va être frappé. Jésus va être étonné. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comme quoi même Jésus peut être étonné sur la terre. Il est étonné de voir la foi dans cet homme qui est un étranger, qui est un Romain, qui fait partie de ceux qui oppriment le peuple juif. Jésus va être étonné. Il va dire, j'ai jamais vu une aussi grande foi. En Israël, ni partout où je suis allé, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Et cet étranger, il a compris quelque chose de spécial. Cet étranger, il a compris quelque chose de particulier. Il a compris quoi? Il a compris que Jésus avait une autorité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça un petit peu qu'il dit, il va prendre l'exemple de son métier, hein. Il est centenier, responsable de 100 hommes, et il dit, quand je dis à l'un va, il va. Quand je lui dis viens, il vient. Quand je dis à mon serviteur, fais ça, il le fait. Il y a vraiment une obéissance parfaite. Il y a une autorité dans sa vie parce que son grade, son poste fait qu'il a une autorité. Et il dit de la même manière, dis un mot. Il n'a pas dit une phrase, récite quelque chose, donne-moi une formule magique. Il dit, toi, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pas peut-être guéri, il sera guéri. Il a compris que Jésus avait quelque chose de particulier que les autres n'avaient pas. Jésus avait une autorité particulière. Et de quelle manière Jésus pouvait exprimer son autorité? Avec la parole. Vous êtes d'accord avec moi encore? Le moyen par lequel Jésus exprimait son autorité, c'est « dis un mot ». Par ta parole, parce que moi quand je parle, on m'obéit. Et je sais que toi, tu as une autorité particulière. Ce que j'ai entendu de toi, peut-être avait-il vu quelque chose, n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai su de toi, c'est que tu avais une autorité particulière, une autorité dans la parole. Souvent on dit, la parole est créatrice, et on oublie de dire, la parole de Dieu est créatrice. Parce que si je dis vase, 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 et que je prendrai une demi-heure pour dire vase, c'est pas pour ça qu'un vase apparaîtrait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas parce que je dirai sois guéri, sois guéri, sois guéri, que quelqu'un va être guéri. Vous êtes d'accord avec moi? Ma parole n'est pas créatrice. Mais la parole de Dieu, elle est créatrice. Par contre, si je dis quelque chose parce que Dieu m'a dit de le dire, là, j'ai l'autorité de Dieu, et ce que je vais dire, avoir un certain impact, avoir une autorité, donc va s'accomplir. Mais c'est toujours l'autorité de Dieu à laquelle j'obéis et que je fais que de transmettre. Jésus, dans sa parole, dans ses paroles, avait une autorité. Premièrement, important. L'autorité de la parole dans les paroles de Jésus. Voilà de quoi je voudrais parler ce soir. Souvent dans nos vies, on oublie que la parole de Dieu a une autorité. Jésus était Dieu. Et la parole de Dieu a une autorité. Elle est importante. Ce que Dieu dit, il veille dessus pour l'accomplir. Vous le savez comme moi. Quand on lit la Bible, on ne lit pas un livre commun, un livre ordinaire. On lit une bibliothèque, on lit un livre qui a autorité. Et on a chanté beaucoup de choses, par exemple, je ne sais comment exprimer ma joie. Et c'est vrai que des fois les mots manquent, etc. Mais dans la Bible, il est expliqué comment donner un culte à Dieu. Comment rendre grâce envers Dieu. La Bible a une autorité et si je ne sais pas quoi faire, la Bible a autorité dans ma vie et peut me conduire dans la vérité, dans la justice, dans de bonnes choses. Si je laisse la Bible me conduire, si je laisse la Bible avoir une autorité dans ma vie, alors je serai victorieux. Alors, dans la peine, comme on l'a chanté, je trouverai du courage parce que Jésus revient et je sais que si la Bible le dit, c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Encore? On a chanté. Relève la tête, car Jésus revient. Amen. Mais si je ne crois pas en ce que la Bible dit, si je ne crois pas qu'elle a une autorité, que c'est la vérité, je ne vais pas relever ma tête. Si je ne crois pas que Dieu est un Dieu de consolation, dans ma tristesse, je ne pourrai pas recevoir la consolation de Dieu. Puisqu'il faut que je laisse la parole de Dieu avoir une autorité dans ma vie. Les paroles de Jésus avaient autorité, c'est mon premier point. Quoi que les gens en disaient, quoi que les gens en fassent, quoi que les gens en pensent, les paroles de Jésus étaient pleines d'autorité. Ça ne dépendait pas des auditeurs. Encore aujourd'hui, les paroles de Jésus ne dépendent pas de ce qu'on en pense, de ce qu'on en fait, de ce qu'on en dit. Ces paroles sont pleines d'autorité. Tout ce que Jésus disait avait l'approbation du ciel. Pourquoi? Parce que Jésus ne disait que des choses que le Père lui avait dit de dire. Jésus ne faisait que des choses que le Père lui avait dit de faire. Une pleine soumission qui faisait qu'il avait une pleine autorité, même dans ses paroles. Et tout ce que Jésus disait méritait une pleine attention et un plein respect. Est-ce que dans les évangiles, tout le monde a pris et a mis en pratique les paroles de Jésus? Wow, je suis tout seul ce soir. Non, non, répondez-moi, il n'y a pas de piège. Non, il y en a qui ont mis en pratique. Cet homme, voilà, si tu le veux, voilà, tu peux me rendre pur et voilà que il a mis en pratique ce qu'il avait entendu. Venez à moi et peut-être qu'il est venu et Jésus a posé sa main et il a pu être guéri. Je le veux, sois pur. Encore là une parole. Le centenier, il a dit va, vas-y, c'est bon, ton serviteur. Il a cru et il a fait ce que Jésus lui a dit. Il y a d'autres moments où Jésus a dit, bien, allez pêcher un poisson pour payer les impôts. Ça serait bien ça, hein? Ça serait bien. Quand on a une facture à payer, ah, je vais aller à la pêche et je vais piécher la drachme ou la pièce qu'il faut. C'est pas ça. Mais en tout cas, il y a des moments où des gens ont obéi, où ont cru, ont reçu la parole de Jésus-Christ. À d'autres moments, d'autres sont repartis tout tristes. Vous pensez à quelqu'un? L'homme riche, le jeune homme riche, hein, ce chef de synagogue, il est venu pour demander comment trouver le salut et comment hériter le ciel, comment hériter la vie éternelle. Et puis Jésus va lui dire ce qu'il faut faire. Et ça n'aura pas l'autorité dans son cœur. Est-ce que Jésus avait baissé en autorité? Est-ce que ses paroles étaient moins valables? Non, c'est lui, il n'a pas laissé les paroles de Jésus avoir une autorité dans sa vie. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. Quoi qu'on en fasse, qu'on l'obéisse, qu'on le reçoive, qu'on rejette, les paroles de Jésus, les paroles de Dieu sont pleines d'autorité et elles accomplissent leur effet. Soit elles nous justifient, soit les paroles de Dieu nous justifient, nous approuvent et nous bénissent. Soit si on le rejette, les paroles peuvent nous condamner. Puisque ce jeune homme ne pourra pas dire dans le ciel, mais je ne savais pas. Dieu pourra lui dire, même Jésus dans le ciel pourra lui dire, mais j'ai, d'ailleurs il ne le dira pas, mais imaginons qu'il pouvait le dire, qu'il puisse le dire, il se verrait dire, tu vois, on t'avait dit, mais tu n'as pas obéi, tu n'as pas pris en considération, tu n'as pas saisi la parole qui était pour toi aussi. Jésus avait l'habitude de parler devant des foules, devant des hommes érudits, devant des personnes qui connaissaient la Bible, la Torah, l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Et lui, le simple fils de charpentier, quand il parlait, il bouleversait, il renversait l'entendement, le raisonnement de docteurs, de hauts militaires, de grands comptables. Hein, dans tous les domaines, il avait une parole pour répondre. Faut-il payer l'impôt à César ? Il prend la pièce, etc. Il va donner l'exemple parfait, il sait comment répondre. Des fois, aux questions pièges, il ne va pas chercher à répondre tout de suite, il répond par une autre question. Je vous répondrai si vous me dites. Et comme ils ne le disent pas, ben moi non plus, je ne vous dirai pas. Jésus ne se sent pas obligé de se justifier sur tout, mais il a une parole d'autorité. Il sait comment parler et il peut nous inspirer, Jésus, encore aujourd'hui, pour avoir une autorité dans nos paroles et même une intelligence. Au point qu'à plusieurs reprises, les gens repartaient perplexes et pouvaient dire, dans Luc 4, 32, je vous le lis, « On était frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Les gens étaient frappés par Jésus parce qu'il parlait avec une autorité. Quand il prêchait, quand il racontait les principes du royaume de Dieu, il parlait avec autorité. Il ne bafouillait pas Jésus. Moïse avait peut-être un problème avec sa langue. J'ai peut-être ce soir peut-être un petit peu de stress, etc. Je peux quelquefois bafouiller, mais Jésus, il avait autorité. Jésus, quand il parlait, il avait une pleine autorité, et pas que parce qu'il ne bafouillait pas, mais parce que ce qu'il disait était juste, opportun, à propos, au moment qu'il fallait. Juste après de ce texte, dans Luc 4, 32, il est dit « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Pas beaucoup de mots, hein. « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, sorti de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns les autres « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. On aurait pu continuer tout à l'heure notre lecture dans Matthieu, on aurait vu qu'à un moment il y a une grande tempête. Vous connaissez encore ce récit. Une grande tempête, Jésus va se lever, il va menacer le vent et la mer, et tout se calme. Que ce soit sur la nature, que ce soit sur les esprits, le monde céleste, que ce soit sur les hommes, quand Jésus parle, il est plein d'autorité. Et il n'y a que l'homme pour les résister. Mais la nature lui obéit, les démons lui obéissent, et l'homme a choisi de résister à Jésus. C'est pas uniquement son enseignement qui frappait, mais c'est aussi que c'était confirmé par des choses pratiques. Quand Jésus disait quelque chose, ça se passait. Quand il disait « sois guéri », il était guéri. Quand il disait « sois pardonné », la personne était pardonnée, c'est sûr. Et nous, dans notre vie, est-ce qu'on laisse Jésus avoir une pleine autorité dans sa parole ? Vous avez lu le serment sur la montagne ? Je pense que vous l'avez lu, pour tous, la plupart en tout cas. Jésus parle, et tout ce qu'il dit, ça mérite d'avoir autorité dans notre vie. L'autre jour, j'ai dit bonjour à quelqu'un, on était avec quelques jeunes, j'ai salué quelqu'un qui passait. Et la personne était tellement étonnée, elle s'est retournée, elle a dit « Salut !» Et puis elle a continué. Ça a fait rire quelques-uns, mais j'ai lu, j'ai dit « Oui, mais si vous saluez que ceux que vous connaissez, sous-entendu, ben dites bonjour aussi. » Des fois, les gens ont peur. « Bonjour !» Ils sont tout étonnés, parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus bonjour. On passe chacun pour soi, etc. C'est un exemple tellement simple, mais c'était pour vous montrer que dans tout, si vraiment on dit « Tiens, Jésus a dit ça, je veux que ça ait autorité dans ma vie », alors on sera béni. Je crois qu'il y a une bénédiction à laisser la parole de Jésus, les paroles de Jésus, avoir réellement une autorité dans notre vie. Sommes-nous reconnaissants pour la Bible que nous avons dans la main, ou peut-être pour certains dans la maison ou dans la voiture ? Vous ne l'avez peut-être pas prise ce soir, mais c'est bien de l'avoir, je pense, mais... Est-ce qu'on est reconnaissant pour le fait qu'on puisse avoir une copie de la parole de Dieu, une traduction dans notre langue, etc. Des gens qui peuvent partager avec nous pour qu'on puisse aussi la comprendre, etc. Est-ce qu'on est reconnaissant ? Soyons reconnaissants pour la parole de Jésus, l'évangile, au moins les paroles de Jésus qui nous sont transcrites. Concrètement, est-ce qu'on laisse les paroles de Jésus avoir autorité dans notre vie ? Les paroles de Jésus méritent notre foi. vous le retiendrez. Les paroles de Jésus méritent notre foi. La grande foi de cet homme ne reposait pas sur le spectaculaire. La grande foi de cet homme reposait sur le fait que quand il savait que Jésus parlait, il savait aussi que c'était vrai et que ça allait s'accomplir. Et il n'avait aucune crainte. Il savait que puisque Jésus avait parlé, il pouvait rentrer chez lui. Et sur le chemin, quelqu'un est venu le rencontrer, dans Luc on peut le lire, pour lui dire « Il est guéri le serviteur ». Mais à quelle heure était-il guéri ? À telle heure. Et il reconnut que c'était l'heure où Jésus avait parlé. Comme quoi c'est important, hein ? Soyons confiants, si Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », eh bien croyons qu'il est là jusqu'à la fin du monde. Mais ne laissons pas juste ce verset dans notre cœur, essayons de regarder le contexte. Allez par tout le monde, faites des disciples. Hein ? Si on se met au service de Dieu, si on est des témoins, alors on peut croire que Jésus sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les paroles de Jésus, pas une parole, les paroles. Cherchons à connaître toutes les paroles de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire, ok, donc je me contente des paroles de Jésus. Dans la Bible, certains ils ont la Bible où les paroles de Jésus sont en rouge. Il y a quelqu'un qui a ça ce soir ? Oui, oui. Hein, des fois, les paroles de Jésus, elles sont en rouge. Allez, Jérémie, d'accord. Alors, c'est que les paroles de Jésus-Christ. Que les paroles qui sont en rouge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, on est bien d'accord. Je crois qu'il faut aussi aller plus loin. Et j'aimerais parler ce soir un petit peu aussi, deuxième point. Il y a trois points, il n'y en a pas 20. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Plus particulièrement, les épîtres. Les lettres de Paul. Les lettres de Pierre, etc., etc., de Jean, vous connaissez comme moi. Dans Actes 2.38, il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41-42, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain dans les prières. Le premier critère, la première chose qui montrait que quelqu'un était véritablement converti, engagé à Jésus-Christ, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous comprenez ? C'est très très important de ne pas dire oui, j'ai entendu des personnes, c'est pourquoi je dis tout cela ce soir. C'est aussi parce que ça m'est revenu à cœur, à l'esprit, que des personnes m'ont dit un jour, je ne lis que les paroles de Jésus-Christ, comme ça je sais que je ne me trompe pas. Je trouve que c'est un peu résumé, c'est dommage. L'enseignement des apôtres. Les lettres du Nouveau Testament, les épîtres, ça veut dire lettres, elles aussi ont la pleine autorité de Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi ? Pourquoi est-ce que toutes ces épîtres, ces lettres, ces expositions des apôtres ont vraiment l'approbation de Jésus-Christ et la même autorité que Jésus-Christ ? Parce que c'est le même esprit qui l'a inspiré. Et toutes les épîtres ne s'appuient que sur les paroles de Jésus-Christ, mais les mettre dans des cas pratiques, les développe et tout ça. La première étude que vous faites chez Monsieur Olé, c'est le livre de Jacques. Et la première chose qu'il montre, c'est que Jacques ne s'est appuyé que sur des paroles de Jésus-Christ. Et il les a mises en pratique et il les a développées. Et c'est étonnant de voir combien de fois on veut bien des paroles de Jésus. Et quand on arrive aux épîtres, on dit « Oula, non, c'est trop dur ». C'est vrai qu'il y a des choses quand même un peu sévères ou un peu exigeantes envers nous. Mais si Dieu est exigeant, il est bon. Et ses exigences sont bonnes. Elles ne sont pas lourdes, elles ne sont pas mauvaises pour nous. Elles nous bénissent. Pourquoi ? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui inspire. Jude 1, 3 dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Jude voulait écrire sur quelque chose et à l'intérieur de lui, il s'est senti obligé de faire autre chose. Comme Paul, à un moment, qui voulait aller à un endroit et le Saint-Esprit ne lui a pas permis, il est allé ailleurs parce que le Saint-Esprit l'a conduit différemment. Jude a écrit cette épître et il s'est senti guidé par le Saint-Esprit à l'intérieur pour écrire sur autre chose. Deuxièmement, parce que c'est les paroles de Jésus rappelées, je l'ai dit, Matthieu 28, 18, 19 à 21, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le mot d'ordre de Jésus, c'était « Enseignez-leur à faire pareil, tout ce que j'ai prescrit. » C'est exactement ce qu'ils ont fait, l'enseignement des apôtres. Jésus a dit, je vous donne ma parole, à votre tour de la transmettre et de l'expliquer. Et nous sommes 2000 ans plus tard, et heureusement que des hommes et des femmes ont pris au sérieux la parole de Dieu, ont reconnu l'autorité des Écritures et ont vraiment prêché l'Évangile pour que l'Évangile se répande. C'est pourquoi, il y a plusieurs dizaines d'années, je crois peut-être il y a même 50 ans, que cette assemblée a été ouverte. Et en 1981, elle a été déclarée association. Loi 1905. C'était 81 ou 83 ? Sur les statuts, c'est ça. Elle est ouverte avant, mais elle est déclarée après. C'est parce qu'avant, elle dépendait du centre. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave. L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus transmis par les apôtres. Exemple, 1 Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Il n'invente pas Paul, il le dit. 1 Jean chapitre 1, verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile, ce que je suis en train de dire, mais je crois que c'est important au bout d'un moment d'aller chercher les choses un peu plus profondément. Reconnaître l'autorité de la parole, ce n'est pas reconnaître que ce qui me plaît, que les évangiles, c'est aussi les épîtres. On le voit encore, à chaque fois, ceux qui ont parlé de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu de Jésus, de ce qu'ils ont reçu de lui. Ces livres d'enseignement, est-ce qu'ils ont la place dans notre cœur qu'ils méritent ? Est-ce que je lis les épîtres ? Peut-être quelqu'un, ça fait 6 mois qu'il est là. Je comprends que vous n'ayez pas lu encore tout le Nouveau Testament, bien que 6 mois, c'est déjà suffisant. Mais je comprends que vous n'ayez pas tout lu ou pas tout étudié. Ou que simplement, pour l'instant, vous soyez resté à ce que vous compreniez et il faut s'attacher à ce qu'on comprend, c'est sûr. La foi vient de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Entendre, c'est comprendre. Et si je comprends pas, c'est sûr que ça va pas m'aider, ça va pas, je pourrais pas le mettre en pratique, mais c'est bien de le lire quand même. Parce que le Saint-Esprit pourra me l'expliquer. On va le voir juste après. Il y a donc ces épîtres, c'est important de les prendre. Est-ce que c'est elles aussi qui tranchent dans nos consciences? Beaucoup de fois, dans les entretiens que j'ai, surtout avec des jeunes, ou des adultes, on va dire, des jeunes adultes, il y a cette affaire de relation. Hein, pour rencontrer une conjointe, pour choisir un conjoint, une conjointe. Et quand on prend les Écritures, on dit, voilà ce que la Bible dit, c'est pas moi, ce que je pense, ça ne vaut rien. À moins que je pense pareil que la Bible, mais c'est surtout ce que la Bible pense. Et quand on prend, oui, mais je crois que Dieu peut adapter en fonction des circonstances. En fonction de ma vie, Dieu adapte sa parole. Aucune autorité. Est-ce que les paroles de Jésus, est-ce que les épîtres prennent autorité dans notre vie? J'arrête là. Par rapport à l'enseignement des apôtres aux épîtres. Et troisièmement, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je réfléchis beaucoup, je crois qu'il y a aussi toute une chose à comprendre, c'est que l'Ancien Testament est aussi valable pour notre vie. Beaucoup de personnes se contentent du Nouveau Testament. J'ai encore entendu de personnes que je respecte, de personnes qui marchent aussi dans la vie avec Jésus, qui n'ont rien, et j'ai rien à leur reprocher, mais qui m'ont dit, Jérémie, il n'y a besoin que du Nouveau Testament pour vivre notre foi chrétienne, notre marche avec Dieu. Et je crois que là encore, c'est se tromper. Est-ce que la loi de l'Éternel a une autorité dans notre vie? Je l'ai dit tout à l'heure, pour apporter un culte à Dieu, mais tout est expliqué. En ce moment, je lis j'étudie les Lévitiques. Oh, je vois quelqu'un qui... Et c'est vrai que c'est pas simple. Quand je l'ai lu, j'ai beau l'avoir lu plusieurs fois, de moi-même, je comprends pas tout, etc. Et c'est vrai qu'avec l'enseignement de personnes qui ont reçu un enseignement, c'est beaucoup plus facile, etc. Mais quand on regarde le premier chapitre, le frère, il a prêché 8 heures sur le premier chapitre, et il y a tout décrit par rapport au culte. Celui qui a la conscience de la valeur du sacrifice de Jésus et qui rend un grand culte à Dieu. Puis il y a celui qui a une plus moyenne conscience. Et tout est décrit. Comment guérir de cette petitesse de conscience. Puis il y a le pauvre dans sa conscience de la valeur du culte à Dieu. Et même là, il est dit, quoi faire pour qu'il grandisse dans son culte? Tout est écrit. Je suis impressionné de voir aussi que dans l'expiation, il y a la discipline ecclésiastique. Waouh. C'est quoi? La discipline dans l'Église. Dans les Lévitiques, chapitre 4, il y a exactement dit comment il faut exercer une certaine discipline en fonction du poste qu'a la personne dans l'Assemblée. Il y a une différence entre le péché du sacrificateur, le péché de tout le peuple, le péché de quelqu'un dans le peuple, etc., etc. Il y a une différence, et bien sûr que le péché est aussi grave pour tout le monde. Mais dans sa réparation, vous savez que pour réparer un péché, il faut des fois faire quelque chose, pas juste demander pardon à Jésus. Il y a des fois une confession à faire, une demande de pardon, secrète quelquefois, avec une ou deux personnes, puisque une ou deux personnes sont concernées, mais quelquefois il y a besoin d'une demande de pardon, d'une repentance publique. Il y a diverses choses à faire et tout est écrit. On ne fait rien au hasard dans le culte, dans la vie chrétienne. Tout est écrit, et celui qui m'a donné ces études, il m'a dit, Jérémie, voilà, il y a la vie familiale, il y a la vie dans l'église, il y a la vie entre moi et Dieu, il y a le culte, il y a l'expiation, il y a la discipline dans l'église, il m'a dit, rien que dans le Lévitique, il y a tellement de choses. Alors maintenant, je ne vais pas dire qu'il faut lire la loi de l'Éternel et puis lire sans comprendre et lire et lire et lire. Je crois qu'il faut comprendre que la parole de Dieu est aussi une loi. Et que dans les paroles de Jésus, dans les préceptes qui sont enseignés dans les Épîtres, comme dans l'Ancien Testament, il y a une loi. Et beaucoup de personnes restent dans leur péché, ne sont jamais victorieux du péché, parce qu'ils ne comprennent pas que la parole de Dieu est aussi une loi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pas simplement de la moralité. C'est pas de la morale. C'est plutôt bien, c'est plutôt mal. Dieu nous dit, si tu veux vraiment être victorieux dans ta vie, il faut que tu comprennes que ça, c'est non, ça, c'est oui. Libre à nous d'obéir. Et la loi de l'Éternel, pour vous montrer qu'elle n'est pas mauvaise, c'est tu ne tueras point. Ouf! Vous êtes d'accord que la loi est bonne? Ouf! Qu'il est écrit, tu ne tueras point. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouf! Mais c'est ça la loi de l'Éternel. Le mot loi, aujourd'hui, il ne plaît plus. Le mot loi, il fait frémir. Le mot loi, on n'en veut plus. Et je crois que c'est pour ça que dans notre monde, il y a une telle décadence. Parce qu'on ne veut plus de loi. Vous l'avez vu. Dans nos rues, dans les quartiers, dans les écoles aujourd'hui. J'ai deux sœurs qui sont professeurs des écoles. Elles peuvent me dire, et elles pourraient vous dire, que plus personne ne comprend qu'il y a un règlement intérieur. Qu'est-ce que c'est que la loi? Sinon, je l'ai marqué. La loi est une série de règles qui régissent la vie dans un domaine. Et le domaine qui nous concerne, c'est le royaume de Dieu. C'est juste des règles qui régissent la vie. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on vive heureux, pour qu'on vive en harmonie, pour qu'on vive approuvé de Dieu. Et beaucoup de personnes ne veulent pas de loi. Luc 24, 27, commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua toutes les choses, dans toutes les Écritures, pardon, tout ce qui le concernait. Jésus-Christ a commencé par dire que même dans la loi, il est parlé de son amour, de son sacrifice, de la valeur de l'homme aux yeux de Dieu. Et tout ce qui le concernait, il a commencé par le prendre dans Moïse et dans les prophètes. 2 Jean chapitre 1 verset 4 à 6, « J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. » Dieu a toujours dit qu'il y avait quand même des commandements. Il y avait des lois, il y avait des préceptes, il y avait des choses. Et l'enfant qui sont donnés par Dieu, pour notre bien, l'enfant de Dieu est choisi de dire oui et d'obéir. Je crois qu'il n'y a aucune grâce que l'on puisse obtenir, même le jour de notre conversion, sans obéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu sans obéissance. La grâce de Dieu est obtenue par la repentance, par la foi en Jésus, et par une réelle repentance et une réelle conversion. Jésus va dire, repentez-vous. Si je n'obéis pas, ne serait-ce que ce commandement, est-ce que je peux obtenir la grâce de Dieu? Non. Beaucoup de personnes, moi je ne suis plus la loi, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Mais d'accord. Mais est-ce que tu n'as pas obtenu ton salut parce que tu as obéi? Bien sûr. La grâce, c'est que même en obéissant, on ne mérite pas. Vous comprenez? Je ne mériterai rien de Dieu. Tout est grâce parce que de toute manière, je ne peux rien obtenir de Dieu par moi-même. Mais Dieu me le donne gratuitement, simplement, si j'obéis à ce qu'il me demande. À chaque promesse, il y a un commandement. Je l'ai dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie si vous enseignez aux autres à obéir à mes commandements, à faire ce que j'ai prescrit. Il y a toujours derrière un commandement divin qui nous bénit. Bien sûr, la conséquence, c'est une promesse et une bénédiction. Alors n'ayons pas peur. Psaume 1, on l'aime vraiment ce texte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se rate pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voulez réussir dans votre vie. Vous êtes d'accord avec moi ? Monsieur Go veut réussir. Michael, tous on veut réussir. Eh bien, il faut s'appliquer à dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ? La première chose que Paul a dit, c'est que veux-tu que je fasse ? L'une des grandes vérités de la Bible, c'est que tout est inscrit d'abord dans la loi de l'Éternel. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. On l'a balayé du revers de la main. Oui, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et là où est l'esprit, est la liberté. Et j'en viens à la fin, puisque je ne veux pas rentrer plus loin. Je crois que ce n'est pas indispensable. Par rapport au Saint-Esprit, Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Parce qu'on est d'accord, la loi, personne ne peut l'accomplir. La volonté de Dieu, personne ne peut l'accomplir sans l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Que si on ne reçoit pas la vie de Dieu, si on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu, on est faible quant à la loi. Le baptême dans le Saint-Esprit est plus que jamais indispensable. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, on ne peut pas obéir à Dieu. Et je ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit, l'expérience du premier jour, qui elle est indispensable aussi, mais je parle de la marche avec Dieu, la croissance dans une plénitude de l'Esprit. Vraiment être rempli de l'Esprit et moi-même chercher constamment la présence de Dieu. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il dit, je prierai le Père, je vous donnerai un autre consolateur. Vous savez que ce n'est pas du tout ce que le texte dit. En grec, il utilise un mot qui dit paraclète. Paraclétos, ce n'est pas le mot consolateur. On aurait pu dire consolateur, il y a un autre mot, mais ce n'est pas celui-là. Jésus a dit, je vous enverrai un autre paraclète. Qui sait ce que c'est qu'un paraclète ? Comment ? C'est un avocat. Jésus est notre avocat auprès du Père. Mais vous savez qu'un avocat, ça ne sert pas que au tribunal. Et quand on va voir un avocat, c'est pour quoi faire ? Pour lui demander des conseils. Connaître nos droits, mais connaître aussi nos devoirs. Le mot paraclète veut dire avocat, mais plus en détail, c'est celui qui est convoqué, appelé aux côtés de quelqu'un, appelé à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre, un plaideur, ou un conseil pour la défense, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. Le mot paraclète ne parle pas de consolation. Mais il parle d'un avocat, c'est-à-dire, oui, celui qui va plaider, celui qui va plaider dans ton esprit, dire, si, si, t'es enfant de Dieu, ne te laisse pas décourager, ne doute pas. Mais aussi celui qui va nous enseigner la loi de Dieu. Un avocat ne fait que de mettre en avant la loi, ce qui est bon, ce qui est mauvais, et il nous enseigne comment se soumettre à cette loi, comment obéir, comment bien faire les choses. Souvent, quand on construit une église, souvent, quand on décide sur les statuts, puisqu'on est obligé de déclarer les associations, c'est la loi qui le demande. On se renseigne auprès d'avocats avant de faire une bêtise. Et c'est bien. On se renseigne à quelqu'un qui connaît la loi pour pouvoir nous dire est-ce qu'on a le droit de faire ça dans l'église ? Est-ce qu'on est aux normes ? Est-ce que pour vous accueillir, pour que la sécurité soit conforme, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des lois qui sont en règle en ce moment ? Et le Saint-Esprit, beaucoup de personnes le réduisent à une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Mais pourquoi faire ? Si ce n'est que pour obéir à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes disent « je suis rempli du Saint-Esprit » mais n'obéissent pas à la loi de Dieu, n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes disent « je suis rempli du Saint-Esprit » mais ne portent pas le fruit de l'Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et le Saint-Esprit n'est donné que pour une chose, pour nous enseigner. Il est dit dans Jean 14, 26, le Consolateur, en vrai le Paraclète, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le Paraclète, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi. Cependant, je vous dis la vérité, Jean 16, 7, Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, cet assistant légal ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et je termine Jean 16, 13. « Quand le consolateur ou le paraclète sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et on doit comprendre que celui qui veut être baptisé dans le Saint-Esprit, celui qui veut être rempli du Saint-Esprit, il faut que d'abord dans son cœur, il ait la soif d'être un témoin fidèle à la vérité, la soif dans son cœur d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, la soif dans son cœur de servir Dieu. Sinon, je ne pourrais pas être rempli du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va me rappeler les ordonnances de Dieu, de Jésus-Christ. D'accord ? Dieu est un Dieu de consolation, c'est aussi écrit, ne vous inquiétez pas. Mais c'est Martin Luther, quand il a traduit, il est resté sur cette pensée, et en vérité, c'est le mot avocat. Jésus est l'avocat auprès du Père se dire au tribunal, là-haut, où le diable aussi accuse les justes jour et nuit, il y a l'avocat qui est là, auprès du Père, au tribunal. Mais sur la terre, Jésus a envoyé le Saint-Esprit, cet assistant légal pour nous dire, tu sais là, tu te trompes. La Bible dit ceci. Est-ce qu'elle a autorité dans ta vie? Ou là, tu sais, prends courage. Même si tu ne vois pas les fruits, c'est ce qu'il faut faire. Etc. Et le Saint-Esprit est comme quelqu'un qui va être là pour vous aider, pour vous enrichir, pour vous amener. On parle de la vie de l'Esprit. Recevons cette vie de la part du Saint-Esprit. La vie de l'Esprit. Marchons dans l'Esprit. Je crois que c'est important de réaliser que ce qui a fait que ce centenier a été approuvé de Dieu, c'est qu'il a reconnu l'autorité de la parole. Et je ne pourrai jamais dire « Je suis rempli du Saint-Esprit » si jamais je ne suis pas conduit à obéir à la parole de Dieu. C'est très important, parce que je crois qu'on entend beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, c'est un fluide, une aura, une électricité, quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous savez que dans une certaine religion, le Saint-Esprit, pendant des siècles, on se contentait de vous le manifester, le baptême dans le Saint-Esprit, par une claque. Historiquement, c'est prouvé. On vous donnait une claque et on vous disait « tu es rempli du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit ». Ce n'est pas une claque, il n'est pas là pour nous faire du mal. Des gens ont été dégoûtés de Dieu à cause de cela. Mais ce n'est pas aussi celui qui vous dit « oui, c'est bien, fais ce que tu veux, comme tu veux ». La liberté, c'est laquelle ? C'est celle d'obéir à Dieu, parce que sans quoi ? Sans son esprit, on n'est pas libre, on n'arrive pas à obéir à Dieu. Merci Père, merci Seigneur de nous avoir aidés en toutes choses, je le crois ce soir, à comprendre que ta parole devait avoir une pleine autorité dans notre cœur. Elle a une autorité auprès de toi. Tout ce que tu as dit, tu ne le dis pas pour rien, Seigneur. Tu n'as jamais parlé pour rien. Toujours il y a eu un impact à ta parole. Seulement certains ont refusé de se soumettre à ta parole. Certains ont refusé d'obtenir cette grâce, ces promesses et cette bénédiction qui est attachée à ta parole. À chacun d'entre nous, tu nous donnes la sagesse, l'intelligence, le bon sens, Seigneur, de réaliser que nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir t'obéir, pour pouvoir recevoir toutes les instructions, pour pouvoir recevoir aussi l'explication de ta loi. Nous ne comprenons pas tout, mais par ton esprit, on avance dans la vérité. On reçoit toute la vérité. Tu nous conduis dans toute la vérité et ta parole est vraie. Seigneur, je ne suis pas inquiet, Seigneur, de ton côté. Je sais que tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais de mon côté, ce soir, je veux prendre l'engagement de respecter ta parole, de me soumettre à ta parole. Je ne veux jamais juger ta parole, je veux qu'elle puisse me juger à moi, qu'elle puisse séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Tu dis dans ta parole que la connaissance du péché vient par la loi, par ta parole, Seigneur. Et quand tu dis connaissance, c'est vrai, Seigneur, donne-moi du discernement, donne-moi de comprendre ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est péché de ce qui est juste, et d'y marcher, Seigneur. C'est le vœu que j'ai fait le jour de mon baptême et c'est encore le vœu que je veux faire aujourd'hui. Je renouvelle mes vœux envers toi, Seigneur, ce soir. Amen.